C'est interne. Ça ne regarde pas la société. Ça regarde les individus, un nombre d'individus venant de chaque pays du monde.
L'écroulement de la civilisation qu'on peut observer presque actuellement là, avec le dollar, avec les prises de conscience sociales des pays sous-développés, etc., qu'on veut bien garder sous-développés. Tout ça, est-ce que c'est précurseur à justement une époque où l'être humain va se prendre individuellement en main pour se centriciser?
Oui, oui. Ça fait partie des événements qui sont essentiels, qui font partie du plan de vie de la planète, qui coïncident avec le cycle de vie de la planète et qui coïncident aussi avec cette période de la planète où de grands changements doivent se manifester pour que l'homme prenne une certaine conscience. L'homme ne peut pas prendre conscience lorsqu'il y a de la grande richesse, de la grande opulence, ou lorsque l'homme est à l'apogée de sa civilisation. L'homme prend conscience que lorsque la civilisation atteint un stage où elle n'est plus capable de le nourrir, et la civilisation aujourd'hui n'est plus capable de nourrir l'homme, et lorsque l'homme ne pourra plus être nourri par la civilisation en tant qu'individu, il sera obligé de se nourrir lui-même. Et c'est là que commencera son évolution, sa transmutation, le changement vibratoire de ses neurones, et ainsi de suite.
Ça va être la fin de la première partie avec Bernard ce soir. Marc, un petit mot. On est obligé de laisser la salle. Les techniciens quittent à 11h. Mais on va quand même essayer d'en passer le plus possible. La première ici qui m'a sauté aux yeux tantôt, c'est le but de vos conférences. Pourquoi Bernard?
Le but des conférences, c'est de sensibiliser le public à eux-mêmes ou à lui-même. Les gens, les individus qui forment un public ne sont pas sensibilisés à eux-mêmes, ils sont sensibilisés à des influences extérieures, et les individus qui font partie de cette masse très vaste qu'on appelle le public, souvent des individus qui ont des expériences intérieures essentielles à leur évolution. Ces gens-là doivent comprendre l'importance de leur expérience et aussi comprendre l'importance de ne pas se laisser influencer de l'extérieur pour qu'ils puissent comprendre, connaître, vivre de leur expérience d'une façon de plus en plus totale. Alors, le but des conférences, c'est un début, parce qu'il y en a plusieurs. Un début des conférences, c'est justement ça, de sensibiliser le public ou les individus dans le public à eux-mêmes pour qu'ils apprennent à être de plus en plus autonomes, pour qu'ils apprennent à réaliser qu'ils ont en eux des facultés ou des sensibilités ou des perceptions ou des formes d'intelligence qui sont essentielles à leur évolution et qui font partie de leur évolution. Et tant que les hommes n'auront pas suffisamment d'appui de l'extérieur, leur démontrant l'importance de leur expérience personnelle, ils seront toujours portés à aller vers l'extérieur pour faire corroborer, pour faire expliquer ce qu'ils sentent et souvent ce qu'ils savent. Des individus dans le public doivent comprendre par le biais d'une instruction qui est la mienne des aspects qui leur permettent éventuellement d'individualiser de plus en plus ce qu'ils sont, de reconnaître ce qu'ils sont et de ne pas toujours se fier sur les autres, pour qu'ils puissent enrichir leur propre vie, leur propre personnalité.
On va essayer de faire des réponses courtes, Bernard, parce qu'il y en a beaucoup de questions. Quelles sont les lois universelles à part de la loi d'harmonie et la loi du mensonge cosmique?
Il y a beaucoup de lois universelles. Ce qu'on appelle les lois universelles, dans le fond, sont la façon ou les façons dont réagissent les unités composantes de l'universel. La loi universelle pour un homme qui est spirituel, c'est une chose. La loi universelle pour un homme qui est conscient, supramental, c'est une chose. La loi universelle pour un homme qui est dans l'éther, c'est une autre chose. Dans le fond, une loi universelle, c'est une relation parfaite entre le mouvement de la lumière et les unités composantes ou complexes qui servent à l'évolution. Il n'y a pas une loi universelle. Souvent, on parle de la loi universelle parce que tout se ramène à l'unité. Il est vrai qu'il y a de l'unité dans tout, mais dans le mouvement de l'énergie, surtout, par exemple, sur le plan de l'intelligence, les lois de l'intelligence sont extrêmement complexes et elles se définissent par rapport à l'individu qui en est le récipient. La loi universelle de l'intelligence pour un homme n'est pas nécessairement la même loi universelle de l'intelligence pour un autre, mais les deux sont parallèles. Ce qu'un homme peut faire dans le cadre d'une loi universelle est toujours déterminé par le pouvoir occulte qu'il possède sur la forme. Un homme qui n'a pas ce pouvoir occulte sur la forme ne pourra pas vivre cette loi universelle et automatiquement ne pourra pas la comprendre. Alors, de parler de loi universelle, c'est de parler philosophiquement de l'harmonisation des mouvements de l'énergie de la lumière dans le monde. Et autant il y a de plans d'énergie, autant il y a d'individus, autant il y a d'unités qui correspondent à l'intelligence, autant cette loi qui est unitaire se divise à l'infinité, mais toujours dans un cadre d'harmonie totale.
Une question qu'on s'est répétée peut-être 4-5 fois tantôt dans la conférence, c'est qui est Dieu? Qui est Dieu? C'est à mon tour de le demander.
Qui est Dieu? Qui est Dieu? C'est une question. Et la question vient de l'homme parce que l'homme pense. Lorsque l'homme ne pense plus, la question n'existe plus et c'est la réponse. Et lorsque l'homme est dans cette réponse, ou qu'il est dans le savoir de cette réponse, et qu'il découvre d'autres plans de la réalité, il s'aperçoit que le concept de Dieu, le concept humain de Dieu, est un concept qui sert à l'évolution progressive de la spiritualité humaine, mais que, au-delà du mental inférieur de l'homme, le concept de Dieu ne sert plus à l'évolution, parce que l'homme est déjà parfaitement en harmonie avec les forces de l'évolution. Et la qualité de lui-même qui fait qu'il demande cette question n'existe plus. Alors, si la question n'existe plus, la réponse non plus. Et si la réponse n'existe pas, c'est parce qu'on n'en a pas de besoin. Et si on n'en a pas de besoin, c'est parce qu'elle ne sert pas. Et si elle ne sert pas, c'est parce qu'on n'en a pas de besoin. Mais là, je vous donne cette réponse à partir du supramental. Je vous ne donne pas cette réponse à partir d'un plan intellectuel ou philosophique. Sur le plan philosophique, il y a une réponse à qui est Dieu. On peut en donner toutes sortes de réponses. Mais sur le plan supramental, sur le plan de la lumière, cette question n'existe pas. Tout est lumière en évolution. Et la totalité de cette évolution est ce que vous, les hommes, appelez Dieu. Mais Dieu pour un homme conscient et Dieu pour un homme inconscient est une formulation parfaitement différente d'une réalisation intérieure qui, dans un cas de conscience, n'existe pas et qui, dans le cas de l'inconscience, existe. Vous me demandez qui est Dieu? Qui est Dieu? C'est C'est une perte de temps, se demander cette question-là. C'est une perte d'énergie. Demander une question, c'est une perte d'énergie. Mais c'est difficile à comprendre, ceci, quand on a beaucoup d'énergie à perdre. Mais quand on n'a pas d'énergie à perdre, la question ne vient pas au mental parce qu'elle n'est pas nécessaire. Elle nourrit pas le mental parce qu'il n'y a pas d'émotion qui la suscite. Moi, j'ai rien contre Dieu. J'ai rien contre le concept de Dieu. C'est un très beau concept. Il a servi beaucoup à l'humanité. Mais, à un certain moment de l'évolution, ce concept-là est totalement humain. Il n'est plus nécessaire. Parce qu'il ne fait pas partie du réel. Il fait partie de la forme dont a besoin le réel pour l'évolution progressive de l'homme. Lorsque l'homme est dans la lumière, lorsqu'il vit avec l'énergie de la lumière, lorsqu'il entre dans les plans de la lumière, ce qu'il est ce qu'il voit, et ce qu'il voit est ce qu'il sait, et ce qu'il sait est la limite de son pouvoir créatif. Et il ne peut pas aller au-delà de cette limite, parce que la limite d'un être est toujours le pouvoir concret de cet être dans la condensation parfaite de tous ses plans. C'est comme si on parle de la limite du Christ. Le Christ a une limite, tous les êtres créatifs ont une limite, mais la limite du Christ est une limite qui est suffisamment vaste pour permettre que la conscience de son intelligence se répande dans le cosmos à une échelle suffisamment élevée pour que bénéficient tous les êtres dans ce cosmos. Mais pour l'homme, c'est la même chose. La limite de l'homme est toujours en relation avec son évolution sur le plan de l'âme. Et un homme qui a atteint le plan de l'âme et qui est en évolution en relation avec cette âme et qui devient, dans le cas échéant, un être descendant dans les mondes de la matière, n'a plus besoin d'un concept de Dieu pour vérifier la nature ou l'origine de la création, puisque les mystères de l'origine de la création font partie des mystères de la lumière et n'ont aucune concordance, aucun parallèle avec les propositions philosophiques de l'intellect humain. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Demandez une question, vous aurez une réponse. Tant que vous demandez une question, vous aurez une réponse. Tant que vous demanderez une question, ce sera pour avoir de la connaissance, dont la réponse sera la manifestation. Lorsque l'homme sera dans le savoir, il n'aura plus de questions, il n'aura plus besoin de réponses, il y aura la paix. À ce moment-là, l'énergie qui est en lui sert à créer, et ça fait partie de ce que vous appelez le mouvement global, trinitaire, absolu de Dieu. Mais il faut faire attention, parce qu'aussitôt qu'on emploie le terme Dieu, le mot Dieu, quand on est supramental, on reçoit une vibration contraire. Parce que la vibration de la forme est toujours antécédente au temps de la conception de cette forme. Mais le temps de la conception de toutes les formes dans l'esprit humain fait partie de la mémoire de l'humanité. Et la mémoire de l'humanité est la prison de l'homme.
Alors voici, qui n'est pas une question. De ce que je comprends de cette conférence, c'est que vous nous dites qu'il n'y a pas de créateur, que nous deviendrons tous, un jour, par la lumière, des créateurs.
C'est pas bête, ça. C'est lui qui a posé ça ou c'est moi qui l'ai dit?
C'est pas une question.
Il faut la relire.
C'est pas une question, c'est une constatation.
C'est ce qu'il a constaté.
Oui, monsieur a un compte à la Caisse populaire de Duvernay.
Bon, c'est bien, on va y aller.
Il y en a beaucoup en banque.
Je vais vous dire pourquoi c'est pas bête.
Est-ce que je la répète? De ce que je comprends de cette conférence, c'est que vous nous dites qu'il n'y a pas de créateur, que nous deviendrons tous un jour par la lumière des créateurs.
Bon. Alors, il y a du vrai et du faux dans ce qu'il dit. Autrement dit, il y a du bon sens et une absence de savoir. Dans ce sens que... Passe-moi un petit papier. Bon. D'abord... Bon. Il n'y a pas de créateur. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de créateur. J'ai dit que la conception que nous avons de la création est une conception humaine. Et la conception humaine que nous avons de la création est une conception qui fait partie des limites de l'homme. Lorsque l'homme dépasse les limites de son humanité, lorsque l'homme dépasse les limites de sa conscience planétaire, lorsque l'homme entre dans l'infinité de la limite de la conscience cosmique, à ce moment-là, il connaît, il sait, il voit, il comprend les lois de la création. Mais les lois de la création, à ce moment-là, sont tellement vastes et sont tellement en dehors de la limite planétaire de l'intelligence de l'homme qu'elles ne peuvent pas être transmises dans le cerveau de l'homme par le biais des mots. Sans cela, l'homme ne pourrait pas vivre cette connaissance. Il deviendrait fou. Parce que plus on entre dans le cosmos, plus on entre dans l'infinité, plus la création devient prépersonnelle. Et plus on retourne dans l'infinité du prépersonnel, plus on s'aperçoit que la nature de la lumière est totalement inverse à la pulsation parfaite des absolus qui sont dans l'île du paradis. Alors automatiquement, la lumière, plus elle avance dans le temps, plus elle recule dans Dieu, et plus elle recule dans Dieu, plus elle s'enferme sur elle-même, et c'est justement le mouvement de s'enfermer sur elle-même qui permet à la lumière de créer des êtres comme les hommes qui deviennent plus tard créateurs. Alors l'homme, pour concevoir ce qu'il appelle Dieu, il doit réaliser d'abord que tout ce qui fait partie de sa mémoire humaine, tout ce qui fait partie de la mémoire de l'humanité, est une façon de lui aider à progresser selon des lignes de conduite qui sont déjà fixées par les lois de l'intelligence universelle. Mais lorsque l'homme entre et qu'il est en harmonie vibratoire avec les lois de l'intelligence universelle, il n'est plus dominé par les règles du jeu de l'intelligence universelle et à ce moment-là, il devient un être créateur. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de Dieu, de créateur. Je dis que la conception de Dieu que nous avons, une conception humaine, est une conception purement planétaire. Est-ce que lorsque l'homme sera dans l'éthérique, l'homme verra que ce qu'il appelle Dieu est autre chose et que ça ne se comprend pas par les mots, autrement dit, ça ne se conceptualise pas. Et lorsque l'homme sera rendu à ce stage, automatiquement, il sera créateur parce qu'il fera partie de l'énergie qu'il sera en position de contempler, de voir et de véhiculer, et il pourra à ce moment-là réaliser son rêve philosophique d'être un jour un Dieu, autrement dit, d'être un jour un être créateur. Il n'y a pas de différence entre l'homme et Dieu. Il n'y a pas de différence entre l'homme et la lumière. La lumière est une totalité parfaite qui se subdivise infiniment, qui se diffuse dans le cosmos et qui crée, à l'échelle de son temps, des unités qui éventuellement deviennent des hommes, qui éventuellement sont remplis d'elle et qui éventuellement deviennent des extensions créatives d'elle. Mais dès que l'on pense en termes d'infinité, on divise l'homme en deux, l'homme cosmique, l'homme planétaire, et on ne connaît pas l'homme cosmique. Automatiquement, on reste simplement avec l'homme planétaire, l'homme philosophique, et on diminue en nous, par le biais de notre façon de penser, notre pouvoir de contempler l'intelligence, de savoir, de vivre de l'intelligence et d'explorer par l'intelligence et les mouvements de cette intelligence dans nos corps qui nous amènent à l'éther, les différentes dimensionnalités du cosmos. Ce n'est pas le but de la vie de comprendre Dieu. Le but de la vie, c'est de se comprendre soi-même. Lorsque l'on se comprend soi-même, on sait qu'est-ce que ça veut dire comprendre Dieu.
Vous avez posé la question à Richard Glenn. Nous aimerions que vous y répondiez. Vous, qui a créé l'homme? Et s'il vous plaît, une réponse directe et précise. C'est une manière de se venger.
Qui a créé l'homme? C'est une bonne question. Maintenant, est-ce que la question est valable? Elle est valable si on s'y intéresse. Et si on s'y intéresse, on veut une réponse. Et si on veut une réponse, on cherche à comprendre la question et la réponse en même temps parce qu'on a émotivement une raison qui nous amène à découvrir le pourquoi de notre origine, afin que nous puissions, au niveau de notre intellect, de notre intelligence, nous situer dans le cosmos. Mais on ne peut pas se situer dans le cosmos par une question répondue. On se situe dans le cosmos, dans le vide total de notre conscience. C'est dans le vide de la conscience de l'homme que l'homme se situe dans le cosmos. Ce n'est pas par l'explication philosophique ou cosmologique à l'aide des mots qu'il peut se situer. Alors, ma réponse à d'où vient l'homme, qui a créé l'homme, c'est celle-ci. C'est que tant que vous chercherez à connaître les origines de l'homme, vous chercherez à connaître les mystères de l'homme. Et tant que vous chercherez à connaître les mystères de l'homme, vous ne pourrez pas connaître votre propre mystère. Et tant que vous ne connaîtrez pas votre propre mystère, vous ne pourrez pas répondre à la question d'une façon parfaite et à la conceptualiser d'une façon parfaite, parce que elle sera toujours parfaitement incomprise de la part de votre intelligence inférieure. C'est seulement lorsque vous serez en contact avec votre intelligence supérieure que vous pourrez avoir réponse à la question de l'origine de l'homme, et à ce moment-là, votre intelligence supérieure vous dira que c'est pas important. Et à ce moment-là, votre intelligence inférieure sera bousculée, sera un petit peu vexée, et c'est justement le but de l'intelligence supérieure de bousculer et de vexer l'intelligence inférieure pour amener l'homme, éventuellement, à ne pas demander de questions. Parce que ça, c'est difficile à comprendre, pourtant c'est si facile à vivre. Je comprends que les gens aient de la difficulté à comprendre qu'une question n'est pas nécessaire. Elle est nécessaire pour l'homme au stade de son évolution. Mais il viendra un jour où l'homme n'aura plus de questions parce qu'il n'aura plus de matériel dans son mental inférieur qui le forcera émotivement à demander une question. Et c'est lorsque l'on n'a plus à se demander de questions, surtout concernant les mystères de l'évolution, que l'on sait. Et lorsque l'on sait, on n'est plus intéressé à la connaissance. Lorsque l'on sait, on n'est plus intéressé à la question. Parce que lorsque l'on sait, on n'est plus emprisonné dans la forme qui crée à l'homme l'anxiété philosophique. Alors, c'est beaucoup plus facile pour moi de vous répondre comme je vous réponds, mais d'un autre côté, c'est beaucoup plus difficile parce que je ne fais pas plaisir à votre intellect. Si je faisais plaisir à votre intellect, à ce moment-là, ce serait plus facile, mais vous ne comprendriez rien. Tandis que si je ne fais pas plaisir à votre intellect et que je ne réponds pas à votre question, j'aide directement à vous amener à confronter le réel en vous-même, même si vous n'êtes pas capable de le sentir au niveau de l'intelligence, de votre intelligence supramentale. Et c'est ça le but du travail supramental sur la Terre. Le but du travail supramental sur la Terre, ce n'est pas de donner à l'homme de la réponse à la question. Il y a suffisamment d'hommes très éclairés dans le monde occidental qui peuvent vous répondre à cette question. Rudolf Steiner, c'en est un exemple. Il y a beaucoup d'autres qui peuvent répondre à votre question « D'où vient l'homme? » Mais vous verrez un jour que ce n'est pas la réponse à la question qui est importante, c'est le vide derrière la question. Et la réponse à la question vous spiritualisera, vous amènera dans la connaissance des mystères de l'homme, mais ne vous amènera pas à la conscience du supramental. Dans le supramental, l'intelligence, elle est pleine parce que le savoir, il est plein, parce que le désir du savoir n'existe plus. Et c'est là que l'homme doit aller, et c'est pourquoi je dois vous répondre ainsi. Mais pour répondre à votre question, pour vous permettre d'avoir accès à une réponse, regardez les textes de Rudolf Steiner et vous verrez que son explication de l'origine de l'homme est suffisante pour l'homme et qu'elle est d'ailleurs très belle et très grande. Mais moi, je ne peux pas vous dire et je ne peux pas vous répondre parce que mon travail ne se situe pas au niveau de la connaissance de l'homme. Mon travail, ce n'est pas de donner à l'homme de la connaissance, c'est de détruire les raisons dont il se sert pour constamment alimenter son intellect, et ce travail doit continuer parce que son intellect, à un certain moment donné, doit cesser de fonctionner. Et lorsque l'homme commence à comprendre ceci, lorsque l'homme commence à cesser de se demander des questions, l'homme entre dans la conscience supramentale et l'homme me comprend facilement parce que je suis très facile à comprendre. Vous riez parce que vous pensez. Mais si vous ne pensiez pas, vous ne riez pas parce que vous sauriez que tout ce qui est supramental est très simple, c'est l'intellect qui le complexifie. L'homme est fait de deux choses. L'homme est planétaire et l'homme est cosmique. Mais l'homme planétaire doit devenir cosmique. Et lorsque l'homme est devenu cosmique, il n'est plus intéressé à la dimensionnalité de son expérience planétaire. Ce qui était planétaire pour lui avant, qui était important pour lui avant à tous les niveaux, c'est totalement dépassé. Alors, l'homme cosmique ne peut pas se mettre sous les conditions de l'homme planétaire. C'est pourquoi que je ne peux pas répondre à sa question, parce que mon travail est de défaire tout ce qui amène ceci dans la vie de l'homme. Mais, comme j'ai dit, regardez Steiner, regardez l'ésotérisme chrétien de Steiner ou des œuvres qu'il a faites et vous verrez qu'il y a des réponses à votre question qui satisferont votre intelligence et votre curiosité ésotérique ou spirituelle. Si jamais je vous parle de l'origine de l'homme, si je vous explique l'origine de l'homme, ce serait dans des conditions où ce que je fais ne sera pas impliqué. À ce moment-là, je vous parlerai des origines de l'homme, dans un petit café, avec un petit café. Mais déjà, ce sera simplement pour amener de l'eau au moulin. Mais le point que je veux faire, c'est que les hommes doivent un jour réaliser que c'est devenu très important d'arrêter de se demander des questions. C'est évident qu'il y a une réponse à toutes les questions. Le point n'est pas là. Le point est que on doit en arriver à ne pas se demander des questions et se casser la tête, parce que viendra le jour où l'homme, une fois qu'il sera dans la lumière de l'éther, qu'il aura accès aux archives, l'homme connaîtra tout de l'évolution. Mais à ce moment-là, il travaillera d'une façon créative, il servira de l'information pour des fonctions créatives, au lieu de se servir de l'information pour créer entre lui et la lumière un mur. Et le mur, c'est l'intellect. C'est pourquoi je ne réponds pas à votre question. Avec tout le respect que j'ai à votre personne.
Quand Richard t'a demandé qui parle en ce moment, tu n'as pas répondu. Alors moi, j'aimerais que tu répondes à cette question.
Qu'est-ce que c'était la question?
Aviez-vous répondu à quelques questions tantôt? Bernard, quand Richard t'a demandé qui parle en ce moment, tu n'as pas répondu. Alors moi, j'aimerais que tu répondes à cette question.
Ah oui. Qui parle en ce moment? Dans l'homme, il y a l'esprit de l'homme, il y a l'ego de l'homme, il y a l'âme de l'homme et il y a la lumière. Quand l'ego de l'homme est transmuté en esprit, que l'homme fait le don de sa personnalité, l'homme, sur le plan de la personnalité, est lié à l'esprit en lui. L'esprit en lui fait partie de la transmutation de son ego. C'est-à-dire que l'esprit est la liaison entre son mental supérieur et son mental inférieur. L'esprit, c'est une énergie qui fait partie de l'homme, c'est une condition de sa conscience qui lui permet d'entrer en communication avec des plans supérieurs de l'évolution, c'est-à-dire des plans où la lumière est. Et lorsque l'homme est capable, par vibration, de communiquer, d'être en harmonie vibratoire avec cette énergie, automatiquement l'énergie, elle descend et elle fait vibrer son esprit. Et lorsqu'elle fait vibrer son esprit, par le biais du corps matériel, manufacture de l'information qu'on appelle le langage. Alors, si vous me demandez qui parle en moi, je peux dire plusieurs façons. Je peux dire c'est moi qui parle sur un autre plan. Je peux dire que la lumière active mon énergie sur un autre plan. Je peux dire que c'est la manifestation de la lumière sur un autre plan. Je peux dire que c'est la façon à la lumière de se manifester dans mon esprit sur un autre plan. Mais d'une façon ou d'une autre, je n'anthropomorphiserai pas l'origine de ce qui est dit. Parce qu'à ce moment-là, je tomberai encore dans la forme. Alors, la lumière a le pouvoir de se manifester comme elle veut, sous tous ses aspects, et lorsque l'homme est en relation avec cette énergie et qu'elle passe par son mental supérieur, elle devient de l'intelligence. Parce que la lumière n'est pas simplement de l'intelligence. La lumière est de la volonté, la lumière est de l'intelligence, la lumière est de l'amour, et la lumière est quatre autres principes qui ne sont pas connus dans le cosmos encore. Alors la lumière, quand elle se manifeste par le biais d'un outil qui est développé, le corps mental supérieur, elle se manifeste, et si on est spirituel, on a tendance à dire, c'est notre ange gardien qui parle, ou c'est un être supérieur qui parle, et ça, c'est toujours conditionnel au désir que l'on a d'être en communication avec un être qui est au-dessus de nous. Et c'est normal. Mais lorsque l'on a suffisamment compris les lois de la dépersonnification de la forme, on s'aperçoit que tout rapport entre l'homme, au niveau de son esprit, et le cosmos, au niveau de sa lumière, est un rapport total, unitaire, qui provient du fait que la lumière est en fusion avec l'âme, et c'est tout ce dont a besoin l'homme pour évoluer et devenir créateur. Et à ce moment-là, la question concernant le « qui vous parle » est une question qui revient encore à la même nature que la question de l'homme, à l'origine, la valeur de l'origine. Mais la valeur de l'origine de toute chose est toujours une condition intellectuelle de celui qui pense. Le chien ne pense pas, pourtant il a une origine et il vit sa vie en harmonie avec la nature. L'homme pense, il détruit l'harmonie entre sa vie et l'énergie parce qu'il pense. Un homme, un jour, ne pensera pas. Il vivra encore en harmonie avec la nature, mais avec la faculté de comprendre ce qu'il sait, tandis que le chien ne comprend pas ce qu'il est. C'est la différence entre l'homme et le chien. Et plus tard, au cours de l'évolution, viendront d'autres niveaux d'hommes, d'autres êtres, une autre humanité, qui sera encore plus élevée en vibration et qui n'aura plus besoin de se servir de l'éther pour créer de la forme, parce que ces hommes-là seront déjà dans la lumière de l'énergie et se serviront de l'énergie pour créer le plan dont ils auront besoin pour véhiculer cette énergie, de sorte que l'homme pourra penser telle chose et c'est telle chose qui se manifestera. Autrement dit, l'homme sera arrivé dans un autre stade de l'évolution créative. Et ainsi de suite. On veut toujours comprimer, compresser, mettre une limite, une origine. C'est la plus... Mettre une origine, chercher l'origine des choses, c'est une perversion de la nature, de l'intelligence. C'est pour ça aujourd'hui que la science est une perversion de l'intelligence, mais elle est une manifestation de cette intelligence dans le mental inférieur de l'homme pour l'évolution sur le plan matériel, d'une structure matérielle qui est de plus en plus bénéfique à l'homme matériellement. Mais vient un temps où l'énergie de l'intelligence passant par un mental inférieur qui est influé par l'émotionnel, vient un temps où l'intelligence créative du cosmos n'est plus une intelligence créative, elle devient une intelligence destructive. Et c'est à ce stade que nous sommes aujourd'hui rendus. La science aujourd'hui ne sert plus l'homme, elle le dessert. Alors, si l'intelligence ne sert plus l'homme, parce qu'il y a dans l'intelligence de l'émotivité, de l'astralité, de la nature humaine, à ce moment-là, éventuellement, ce que l'homme a créé ou développé en relation avec cette intelligence doit être détruit. Il doit y avoir un changement, parce que ça fait partie des lois de la lumière. Et il est de la même nature Dans le domaine de la philosophie, dans le domaine des questions, on cherche, on veut savoir d'où vient l'homme, l'origine de l'homme, de la même façon dont on veut savoir comment fonctionne la tombe. C'est normal. Mais un jour, l'homme réalisera que c'est anormal parce qu'on n'a pas besoin de chercher pour savoir. Chercher, c'est ne pas savoir. Chercher, c'est en dehors du savoir. Le mot le dit. Quand on est dans le savoir, on n'a plus besoin de chercher, mais ça ne veut pas dire que quand on est dans le savoir, on a besoin de savoir. Quand on est dans le savoir, on n'a pas besoin de savoir. Parce qu'avoir besoin de savoir, c'est avoir besoin d'être alimenté par une forme. Et c'est ce qui fait qu'on n'est pas dans le savoir. Quand on est dans le savoir, on n'est pas intéressé à rien. On canalise. On crée une forme, mais on n'est pas intéressé à rien. Parce que c'est justement la nature même du savoir de ne pas être intéressé à rien, parce que être intéressé à quelque chose, c'est égocentrique, c'est égoïque. Et quand on est dans le savoir, on n'est plus dans l'ego, on est dans l'esprit de l'ego. Et de ceci, de cette situation, de cet état de vie, se constituent tous les autres aspects du savoir que l'on canalise à l'homme, pour amener l'homme à comprendre ce que nous disons et pour amener l'homme à réaliser que ce que nous disons est très simple à comprendre. On a l'impression sur la terre que notre vie est de nos affaires. Notre vie n'est pas de nos affaires. On la fait de nos affaires et on la fait mal. Si l'homme vivait dans l'énergie de la lumière sur tous les plans de son expérience, il verrait très bien que la vie matérielle n'est pas de ses affaires, que la vie matérielle n'est simplement une extension dans la matière d'un pouvoir de son esprit, et qu'à un certain moment, il doit dépasser les limites de cette vie matérielle pour entrer dans l'infinité d'une autre dimension du temps, qui est l'éthérique. Et il réalisera à ce moment-là que, sur le plan matériel, tout était transitoire, que l'homme est dans la matière simplement par transition, et qu'il doit un jour retourner au monde parfait de la lumière éthérique. Et c'est là que l'homme sera homme, c'est là que l'homme sera surhomme, c'est là que l'homme sera immortel, c'est là que l'homme connaîtra les lois de l'évolution, les lois de l'infinité, que l'homme sera en parfaite harmonie avec l'infinité, et que l'homme pourra transmuter constamment à volonté les lois de l'infinité, parce que, justement, il sera dans la volonté, l'amour et l'intelligence. Tout le reste, c'est de la niaiserie. Mais je comprends. L'ignorance, c'est un état d'esprit. L'ignorance fait partie de l'évolution. Dans l'évolution, il n'y aura pas d'ignorance. Et les hommes sauront. Et les hommes ne demanderont pas aux hommes qu'est-ce que Dieu, qui est Dieu, quelle est l'origine de l'homme, parce que les hommes sauront. Et lorsqu'ils sauront, ils se serviront de ce qu'ils savent au niveau de l'énergie pour constamment alimenter dans le cosmos les réseaux universels de l'évolution pour permettre à d'autres êtres sur d'autres plans d'évolution inférieure à progresser. Parce que plus un homme est parfait dans l'évolution, plus il doit aider ceux qui sont moins parfaits dans l'évolution. Alors le rôle de l'évolution au niveau de l'homme, le rôle de l'évolution au niveau de la hiérarchie, c'est toujours de faire monter le niveau de l'énergie du cosmos, de faire monter le niveau de l'énergie qui se distribue sur les plans, sur les réseaux d'acceptation, qui sont le mental, l'émotionnel, le vital et le physique de l'homme. C'est le seul but de l'évolution. Et c'est ce qu'on appelle l'aperfectionnement de Dieu. Et lorsque tout ceci sera fini, dans le temps que ça prendra, un temps qui n'est pas de l'intelligence de l'homme, de l'intellect de l'homme, un temps que ce n'est même pas intéressant de le savoir, ce temps, parce que si c'est intéressant, il y a encore de l'égocentricité, de l'intellectualisme. Lorsque le temps sera révolu, lorsque les temps seront avancés, lorsque la perfection sera de plus en plus grande, Dieu sera parfait. Et tant que ceci ne sera pas fait, Dieu ne sera pas parfait. Parce que demander si Dieu est parfait ou non, ça implique toujours, ça invoque toujours chez l'homme la nécessité d'avoir quelqu'un au-dessus de lui qui soit parfait pour que lui, dans son imperfection, puisse tendre vers cette perfection. Sans ça, si Dieu est imparfait, qu'est-ce qu'on est, nous, les hommes? Sachant déjà que nous ne sommes pas parfaits, imaginez-vous, si on s'imaginait que Dieu n'était pas parfait, il y aurait des crises d'épilepsie dans le monde. Fait que le bonhomme en haut, il faut qu'il marche son affaire pour que nous autres, on ait au moins l'espoir que ça marche.
Parce que lui, si son affaire ne marche pas, nous autres, on est en banqueroute. Mais ça, ça fait partie des jeux de l'esprit de l'homme. Ça fait partie des jeux de l'intellect de l'homme. Ça fait partie des jeux de l'émotion de l'homme. Et c'est pourquoi que l'homme n'est pas lui-même. L'homme n'est pas dans sa lumière. L'homme n'est pas créateur. L'homme n'est pas autonome. L'homme n'est pas dans la loi de la lumière. C'est pour ça que l'homme est ignorant. C'est ça, l'ignorant. On peut parler infiniment, 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 infiniment des choses. Il faut que ça serve. Si ça ne sert pas, il ne faut pas parler.
Peut-on accéder à la conscience pure par étapes où le passage au supramental par l'initiation solaire ou autre se fait d'un coup?
La conscientisation de l'homme se fait par étapes, en général. Si elle doit se faire tout d'un coup, c'est une fusion. Qu'elle soit faite tout d'un coup, qu'elle soit faite par étapes, ça ne change rien. Mais qu'elle soit faite, c'est ça qui compte. Si vous avez rien assez fort pour que ça se fasse tout d'un coup, tant mieux. Puis s'ils sont moins forts, mais attendez. Que ça se fasse, c'est ça qui compte. Et ça se fera. Avec ceux qui doivent le vivre. Ceux qui ne vivront pas la conscience supramentale sur la Terre devront mourir pour évoluer sur d'autres planètes, pour ne pas empêcher l'évolution de la planète ici. C'est normal.
Vous dites que la connaissance est au-delà de la forme, alors pourquoi sommes-nous tous attirés par la beauté, qui est aussi une forme? C'est peut-être une qualité de la forme, la beauté.
La connaissance, qu'est-ce qu'il dit au niveau de la connaissance?
Alors vous dites que la connaissance est au-delà de la forme.
Non, j'ai pas dit que la connaissance est au-delà de la forme, j'ai dit que le savoir.
Alors,
le savoir est au-delà de la forme. La connaissance est la forme du savoir manifesté dans le cerveau de l'homme.
Alors, vous dites que le savoir est au-delà de la forme, alors pourquoi sommes-nous tous attirés par la beauté?
Nous sommes attirés par la beauté parce que la beauté fait partie en nous du mouvement de l'énergie de la lumière à travers de notre âme. C'est notre âme qui la lentille. Plus l'âme est évoluée, plus l'âme vibre à l'énergie de la lumière, plus automatiquement nous vibrons au niveau de la beauté. La beauté vient originellement de la lumière, elle passe. La lumière passe dans l'âme qui est lentille, qui fait vibrer les corps de l'homme, et nous parlons de beauté. La beauté, c'est une vibration. Sur le plan humain, ça devient une vibration manifestée dans une forme. Parce que l'homme a besoin d'une, sur le plan humain, à cause de ses sens, il a besoin d'une forme pour sentir la vibration. Mais l'homme peut changer très facilement de plan et ne pas voir de forme et sentir la beauté. Mais la beauté, c'est l'énergie de la lumière qui passe dans l'âme et qui se manifeste sur un des plans de l'homme, en général le plan astral de l'homme, et qui lui fait sentir la beauté. Et c'est ce qui permet à l'homme de créer de belles choses, des artistes, les chansonniers, les gens qui donnent à l'humanité un peu d'esthétique. Mais lorsque l'homme devient inconscient, lorsque la conscience diminue sur la planète, la beauté se perd et se perd. Et regardez aujourd'hui dans le monde, vous verrez que plus nous avançons, plus la beauté de l'homme, la beauté de la civilisation se déplace, se déplace, se déplace, se déplace. La beauté devient de plus en plus rare. Et ce qui est plus intéressant, c'est que la beauté maintenant, dans la civilisation de la décadence, se transporte dans un domaine qui est le résultat de la très grande exigence technique du mental de l'homme. Autrement dit, la beauté se déplace dans l'électronique, dans la science de la matière. Avant, on parlait de la beauté des œuvres de musique, ainsi de suite. La beauté était d'ordre démonstrative, l'architecture. Mais aujourd'hui, on voit que la beauté s'en va dans la science technique, les microscopes, toutes ces choses. Autrement dit, la lumière qui passe par l'âme, avant, se situait beaucoup sur le plan émotionnel parce que l'homme n'était pas encore dans le mental. Et maintenant que la science est très développée, que l'homme est beaucoup dans le mental inférieur, la beauté se situe là. Il viendra un jour où la beauté passera de ce plan du mental inférieur, de la beauté de la technique, à un autre plan encore. De sorte que ce qui était beau pour l'homme sur le plan de son émotivité est remplacé aujourd'hui par la beauté. Vous parlez à un ingénieur ou à un technicien, il trouve très beau le travail technique de la science, il a raison, sur le plan mental inférieur, et avec le passage de l'homme à un autre niveau d'évolution, ce que l'homme trouvera beau dans ce temps-là sera une autre étape de la beauté. La beauté fait partie du mouvement de l'infinité dans la conscience de la lumière de l'homme par le biais de l'esprit de l'âme pour renforcer chez l'homme la capacité d'intégrer le plus possible toutes les dimensions de son activité. Vous me considérez comme un guide. Laissez-moi qu'on rentre une minute. D'abord, tant que vous allez me considérer comme un guide, que vous me considériez comme un homme qui est fun, comme un homme qui dit quelque chose d'intéressant, nouveau, particulier, que vous me considériez comme un homme qui a quelque chose à dire, ça c'est une chose. Mais que vous me considériez comme un guide, ça c'est une autre chose. Puis si vous me considérez comme un guide, vous allez vous faire téléguider. Alors, si ce que je dis, ça a du bon sens, ou c'est le fun, ça marche. Mais si vous me considérez comme un guide, vous vous faites une défaveur. Parce qu'à ce moment-là, je deviens pour vous une béquille. Je deviens pour vous une sorte de maître. Et c'est fini, ça. Je l'ai déjà dit, les gourous et gouzous, on n'a plus besoin. Ils ont fait leur job. Apprenez à vous apprécier, à vous sentir intérieurement. Et si ce que je dis, ça coïncide avec ce que vous savez et ce que vous sentez, mais tant mieux. À ce moment-là, je ne suis pas votre guide. On est des chums et on se passe à la même longueur d'onde. Il n'y a rien là. Parlez-nous. Parlez-nous du fonctionnement des homologues universels dans l'univers. L'homologue universel dans l'univers, c'est d'enregistrer pour l'homme toutes les facultés possibles de son entendement, c'est-à-dire de permettre à l'homme d'enregistrer consciemment, dans l'infinité de sa perception, dans le moment où il vit, suffisamment d'informations sur le plan vibratoire pour permettre que l'homologue universel puisse un jour rentrer en contact avec lui et établir une liaison au niveau de l'âme pour qu'un jour il puisse développer ensemble des plans d'évolution. Ça, c'est une petite définition. Quelle sorte d'homologue universel fusionne avec l'homme? Les homologues universels sont de plusieurs natures, il y en a des milliards et des milliards, et ceux qui fusionnent avec l'homme sont ceux qui doivent fusionner avec tel individu. Alors, selon l'évolution de tel homme, il y a tel homologue universel. Les homologues, à cause de la nature prépersonnelle de leur luminosité, peuvent facilement voir dans une planète ou dans un réseau de planètes certains individus qui ont un potentiel quelconque. Alors, un homologue universel qui est très évolué va aller chercher un homme très évolué et va essayer de l'amener à un niveau de fusion éventuel. Un homologue universel qui a moins d'expérience va prendre moins de chance et va s'organiser pour aller chercher un homme qui est un petit peu moins évolué et va essayer aussi de l'amener vers la fusion. Alors, un homologue universel, suivant son expérience, va aller chercher un homme d'expérience. Plus l'homme est évolué, plus l'homologue universel est évolué, ainsi de suite. Un homologue universel peut-il vivre deux fois dans la même galaxie? D'abord, un homologue universel les homologues universels ne vivent pas dans la galaxie. Les homologues universels sont en dehors du temps. Pourquoi l'homme n'a-t-il pas fusion avec Jésus de Nazareth? Pourquoi l'homologue n'a-t-il pas fusionné avec Jésus de Nazareth? Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez que Jésus de Nazareth n'était pas fusionné? Je vais vous dire une chose concernant Jésus de Nazareth. C'est intéressant parce que personne ne le sait. Les seules choses intéressantes, c'est les choses que les gens ne savent pas. Parce qu'ils ont jamais été dites. Dans Jésus de Nazareth, il y a sept facultés. La première faculté, c'est la faculté matérielle. La deuxième faculté, c'est la faculté vitale. La troisième, c'est la faculté émotionnelle. La quatrième, c'est la faculté mentale inférieure. Les trois autres facultés supérieures étaient tellement élevées en lui que sa conscience, à partir du moment où il a vécu la fusion, lui permettait de se donner sur le plan matériel en tant qu'initié, de vivre la mort. Je vais vous dire une chose, essayez de comprendre ce que je veux dire. L'homme a trois principes au-dessus de son humanité, l'intelligence, la volonté et l'amour. Et Jésus de Nazareth était le seul homme qui a réussi à vivre sur le plan matériel le principe de l'amour. Quand je dis le principe de l'amour, je parle de la conscience de l'amour. Le seul. Et il n'y en aura jamais d'autre. L'amour, le principe de l'amour, vive l'amour sur le plan matériel. C'est le plus haut niveau d'initiation possible qu'un être peut vivre. C'est pour ça que Jésus de Nazareth, le Christ, a été celui qui a permis la réouverture des circuits universels pour que l'homme aujourd'hui, puisse, comme ce sont Saint-Hilaire là, qui me fait rater. C'est à cause de cette capacité extraordinaire qui fait partie de sa propre évolution qu'il a pu faire réouvrir les circuits universels entre l'homme et la lumière. Et ça, c'est parce qu'il a été capable de vivre sur le plan matériel de l'amour, du principe de l'amour. Et c'est le seul être dans l'évolution de l'homme, passé et futur, qui a amené l'amour sur la terre, qui a vécu dans ses principes inférieurs l'amour cosmique. Alors, Jésus de Nazareth était fusionné, et son effusion était tellement importante pour l'humanité que s'il n'était pas venu, s'il n'avait pas réussi à descendre ce principe dans la matière, l'homme aujourd'hui n'aurait pas pu recommuniquer avec la lumière. Il y a des êtres qui vivent le principe de l'intelligence sur la terre, dans la matière, mais ils ne peuvent pas vivre le principe de l'amour dans la matière. Moi, j'en suis un, je ne vis pas le principe de l'amour dans la matière, je le vis dans l'éthérique, mais dans la matière, je ne suis pas capable de vivre ce principe parce que ce principe est tellement puissant qu'il détruirait ma personne. Je peux vivre de l'intelligence, du principe de l'intelligence dans la matière ou du principe de la volonté dans la matière, mais je ne peux pas vivre du principe de l'amour dans la matière. Dans l'éthérique, c'est une autre chose. Et les hommes de la sixième race vivront du principe de l'amour dans l'éthérique. Et le principe de l'amour dans la matière n'aura été vécu, connu et su et compris que par Jésus de Nazareth. Je vous dis ça en passant comme ça. Ce que l'on appelle l'amour sur la terre, c'est le sentiment de l'amour, l'amour spirituel. Je parle du principe de l'amour. Un homme ne peut pas vivre du principe de l'amour dans la matière. La preuve, regardez les saints, les grands êtres de l'Église, qui ont lévité en présence de l'énergie, ils devaient être automatiquement sujets aux lois de la lumière pour vivre le principe de l'amour qui les amenait à un état d'extase extraordinaire, qui les ramenait une fois qu'ils étaient dans la matière, qui les forçait à vivre une vie très, très, très simple. L'homme ne peut pas vivre de l'amour dans la matière. Puis ça, c'est d'ailleurs un des grands secrets de l'évolution. Le Christ est venu pour donner à l'homme la connaissance de ce principe. Jamais l'homme n'a pu vivre ce principe. Il en a vécu des formes idéalisantes, mais il n'a jamais pu vivre de ce principe parce que l'amour est un principe de créativité, de création, et c'est seulement dans l'éther que l'homme le vivra. Mais l'homme, avant ça, doit vivre l'intelligence parce que l'homme ne peut pas passer dans l'éther s'il n'a pas d'intelligence. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je vous dis ça, mais je sais que c'est très intéressant qu'on le sache, autant vous-même que moi-même, parce que quand je le parle, je l'apprends. Si je ne parle pas, je n'apprends rien. Pourquoi l'homologue n'a-t-il pas fusionné? Bon, on a répondu à cela. Qu'advient-il de cet homologue? Lorsqu'un homologue fusionne avec un être, cet être et lui-même deviennent parfaitement réunis, et lorsqu'ils sont parfaitement réunis, ils sont parfaitement unis dans le secret de leur mystère, et personne ne peut savoir qu'est-ce qui se passe entre eux et lui. Un homme qui fusionne avec un homologue universel vit un secret avec cet être, et c'est ce secret-là qui fait partie des fameuses lois des nombres que l'on connaît lorsqu'on entre dans l'éther et qu'on manipule les différents rayons d'énergie. Mais ça fait partie du secret de cette âme et de cet homologue. Fini. Mais j'ai parlé de l'amour du Nazaréen, et ainsi de suite, là. Et j'en ai parlé pour une raison qui va au-delà de la simple conversation. J'en ai parlé pour une raison afin de fixer dans l'esprit de l'homme un principe de réalité que l'homme un jour reconnaîtra comme étant véritable. Et ce principe de réalité, c'est celui-ci. C'est que l'amour que connaît l'homme, l'amour humain, ce n'est pas l'amour. C'est une condition astrale de l'amour. Tandis que l'amour, le principe de l'amour cosmique se situe dans le mental supérieur de l'homme, il n'est pas conditionnel à la conscience.